Plume de Brigand, le rendez-vous livre jeunesse avec Lisa Bienvenue. Bonjour Lisa.
Bonjour Patrice.
Merci encore de nous rendre visite avec plein de beaux livres sous les bras. Et aujourd'hui, vous allez nous faire voyager. On en parlait il y a quelques instants. C'est parti pour, on peut dire, un beau moment de musique qui peut finalement concerner toute la famille.
Ouais, c'est ça.
Un peu ça. Et un grand compositeur aussi pour entourer tout le côté texte, bien sûr, qui va être servi par vos soins. On parle d'un opéra, hein, c'est ça, de Puccini.
Voilà, qui s'appelle Turandot. C'est une histoire qui a été écrite au XVIIe siècle par François Pétis de la Croix, qui s'appelle L'histoire du prince Calaf et de la princesse de Chine. Et voilà, donc là, je vais vous lire une adaptation de cette histoire-là, qui est l'histoire d'une princesse très, très cruelle. Michel Oslo avait raconté aussi une histoire de princesse cruelle dans La Reine cruelle avec le Fabulo. Voilà. L'histoire d'une princesse qui tue ses prétendants. C'est
donc
charmant.
Une déclinaison un petit peu plus tôt voilà. Dans l'histoire.
Donc c'est une adaptation de Thierry Dedieu aux éditions Hongfei qui s'appelle Turandot, princesse de Chine. Prologue. Un prince en exil. Il eut le temps de la guerre et celui des peurs. Puis vint le temps de la trêve et celui des pleurs. Durant ces années de bataille, le prince Calaf montra sa force et sa clémence, son habileté dans l'art de la guerre et dans celui de la diplomatie. Malgré cela, les armées ennemies ont vaincu et l'ont chassé de son pays. Pour lui, c'est l'exil. Sur ce chemin qui le mène en Chine, il est un parfait inconnu. Il a laissé ses armes et ses armoiries pour d'autres emblèmes, moins identifiables. C'est une nouvelle vie qu'il vient chercher. Chapitre 1. La princesse de Chine. Sitôt arrivé dans la grande ville de Pékin, le prince Calaf fut connaissance des malheurs du roi de Chine. La fille du souverain, Turandot, âgée d'à peine 19 ans, était la cause de ses soucis. Elle détestait les hommes et avait juré de ne jamais se marier. Or, sa beauté était incomparable. Tous les peintres, et même les plus fameux qui s'essayaient à faire son portrait, sombraient dans le désespoir. Aucun n'avait pu approcher de ses charmes. Et son esprit était des plus brillants. Elle savait non seulement ce qu'on enseignait aux jeunes princesses, mais aussi les sciences qu'on réservait aux hommes. Elle savait les langues, l'arithmétique, la géographie et la philosophie. Mais ces belles qualités n'étaient rien comparées à sa grande cruauté. Car pour décourager les prétendants, la belle exigea de son père, Altun Khan, qu'il signe un édit par lequel tout prince demandant sa main serait soumis à 3 énigmes dont il devrait découvrir le sens. Faute de quoi, il aurait la tête tranchée. Ainsi, le soir même de l'arrivée du prince Calaf, un énième prétendant devait être exécuté. Le prince, piqué par la curiosité, arriva sur place au son des tambours qui annonçaient le début de la cérémonie. Le jeune condamné, mains liées, monta sur l'échafaud pour rejoindre son bourreau. À peine un mandarin lui eut-il fait avouer qu'il était le seul responsable de son sort, que l'exécuteur, d'un coup de sabre, lui abattit la tête. Calaf, encore sous le coup de l'émotion, remarqua un homme qui pleurait à l'écart de la foule. C'était un des serviteurs du prince décapité. Il lui raconta comment son maître, seigneur de Samarcande, tomba amoureux de la princesse juste en voyant un portrait d'elle. « Voici ce dangereux portrait, je vous le donne, il est pour moi la cause de mon chagrin et l'instrument de cette ensorceleuse princesse. » Une fois le néfaste portrait entre ses mains, Calaf n'osait le regarder. Pourtant, surmontant sa peur mais aussi cédant à la curiosité, il découvrit la peinture. Il la regarde, il l'examine, il succombe. Ses yeux, cette bouche, ce nez, tout lui paraît parfait. Et quoi qu'averti, il s'en laisse charmer infailliblement. Dans le même instant, Calaf prend la résolution de demander la main de Turandot. Le lendemain, il se rendit au palais et demanda audience au roi. Une fois dans la salle du trône où se bousculait une foule de sujets, il se fraya un passage juste au-devant. Le roi, lui remarquant de nobles habits, en déduisit que ce n'était pas un homme du commun. « Approche, prince, que me veux-tu ? » lui dit le roi. « Je viens mériter l'honneur d'être votre gendre. » En entendant la réponse, Altun Khan changea aussitôt de couleur. Son visage se couvrit d'une pâleur semblable à celle de la mort. « Quelle fureur !» s'emporta le roi. « À peine un prince a-t-il perdu la vie qu'il s'en présente un autre pour avoir le même sort. » Seigneur, répondit Calaf, je connais tout le danger que je cours. Mes yeux ont été témoins de l'exécution du prince de Samarcande. Mais la mort ne me fait pas peur. Ce que je crains par-dessus tout, c'est de devoir vivre sans Turando. Eh bien, soit, meurs demain, puisque tu le souhaites, ma cruelle fille se fera un plaisir de t'envoyer à l'échafaud. Chapitre 2. Trois énigmes. Le jour pointait quand Calaf entra dans la salle du conseil. Déjà, le roi et sa fille trônaient au milieu. 100 mandarins et autant de professeurs attendaient, impatients. Après avoir fait une révérence au roi, Calaf s'agenouilla devant la princesse dont il devinait à peine le visage derrière un voile d'or. « Je suis prêt, » dit-il. Alors le chancelier se leva de sa place et lut à haute voix l'édit funeste qui condamnait à mort tous les amants téméraires qui répondraient mal aux questions de Turando. Puis la princesse se leva. Calaf baissa la tête. « Dites-moi, quelle est la créature qui est de tout pays, amie de tout le monde et qui ne saurait souffrir son semblable ?»« Madame, » répondit Calaf sans lever les yeux, « c'est le soleil. » Dans la foule, un murmure d'approbation se fit entendre. La princesse poursuivit. « Quelle est la mère qui, après avoir mis au monde ses enfants, les dévore tous quand ils sont devenus grands ?»« C'est la mère, » répondit Calaf, « parce que les fleuves qui vont se décharger dans la mer » tirent d'elle leur source. Turando, voyant que le jeune prince répondait juste à ses questions, en fut si piquée qu'elle chercha une question pour le perdre. « Quel est l'arbre ?» lui dit-elle, « dont toutes les feuilles sont blanches d'un côté et noires de l'autre. » Elle ne se contenta pas de poser cette question. La perfide princesse, pour éblouir Calaf et l'étourdir, leva son voile en même temps et laissa voir toute la beauté de son visage. À la vue de cette incomparable princesse, au lieu de répondre à la question, le prince demeura muet et immobile. Aussitôt, tout le conseil qui était en sa faveur fut saisi d'une frayeur mortelle. Le roi même en pâlit. Mais Calaf, revenu de la surprise que lui avait causée la beauté de Turando, rassura bientôt l'assemblée en reprenant ainsi la parole. « Charmante princesse, je vous prie de me pardonner mon moment de trouble. Vous avez demandé quel est l'arbre dont toutes les feuilles sont blanches d'un côté et noires de l'autre ?» Cet arbre représente l'année, qui est composée de jours et de nuits. Cette réponse fut encore applaudie dans le conseil. Alors Altuncan dit à Turando : Allons, ma fille, avoue-toi vaincue et consens à épouser ton vainqueur. Turando, pendant tout ce temps, avait gardé le silence. Elle paraissait anéantie. Calaf, s'en étant aperçu, se prosterna devant Altuncan et lui dit : Grand roi, je demande une faveur à votre majesté. Je vois bien que la princesse est au désespoir, parce que j'ai eu le bonheur de répondre à ses questions. Puisqu'elle déteste tant les hommes et que malgré la parole donnée, elle se refuse à moi, je veux bien renoncer aux droits que j'ai sur elle, à condition qu'à son tour, elle réponde juste à une question. Le roi accepta cette requête. « Belle princesse, dit Calaf, comment se nomme le prince qui, après avoir souffert 1000 fatigues et combattu pour son pays, se trouve en ce moment comblé de gloire et de joie ?» Turando restait muette. Elle détestait plus encore ce prince qui la faisait souffrir en la torturant ainsi. Folle de rage d'être humiliée, elle sortit de la salle. « Demain, je vous donnerai la réponse, et je serai libre de tout mariage !» cria Turando avant de disparaître. La princesse s'engouffra dans sa chambre, suivie de deux servantes. Aussitôt, elle s'effondra en pleurs. La honte et la douleur étaient peintes sur son visage. « Ah, quelle sera demain ma confusion lorsqu'il faudra qu'en plein conseil devant les plus grands personnages de la Chine, j'avoue que je ne puis répondre à la question posée. J'aurai l'humiliation de les voir jouir de ma peine quand je m'avouerai vaincue et qu'ils applaudiront. Je n'ai demandé du temps que pour me laisser mourir de chagrin avant d'être obligée d'avouer ma honte et d'épouser le prince. » À ces mots, ses pleurs redoublèrent et dans la violence de ses transports, elle n'épargna ni ses cheveux ni ses habits. Elle porta même plus d'une fois la main sur son visage pour le déchirer et pour punir ses charmes comme premier auteur de ses tourments. C'est fini pour aujourd'hui.
Voilà. On attend impatiemment le chapitre suivant, le numéro 3, où il s'agira...
Du complot.
Le complot, pour suivre cette histoire Turando.
Oui, princesse de Chine.
On rappelle que c'est un vieux conte, hein, écrit, vous le disiez...
XVIIe siècle. Par un monsieur qui s'appelle François Pétis de la Croix, qui est un orientaliste. C'est des gens qui récupéraient la culture de l'Orient et voilà, qui l'amenaient en Europe.
Et qui se retrouve maintenant sur votre livre.
Pour la première fois, grand livre. Adapté pour les enfants, les grands-enfants quand même. L'histoire n'est pas forcément évidente, mais elle est grandiose, elle est cruelle. Et puis moi, je trouve que les dessins sont drôles. Ça fait un décalage entre le dessin et les textes.
Merci beaucoup, Lisa. Eh bien, on se retrouve...
La semaine prochaine.
Même heure, même fréquence. À bientôt.
Plume de Brigand, le rendez-vous livre jeunesse avec Lisa Bienvenue.